Bienvenue à la 38e édition de Litteramour. En 2012, j'ai rencontré pour la première fois l'écrivain Jérôme Ferrari pour une émission de radio avec deux jeunes auteurs français qui ont écrit sur la guerre d'Algérie. Dans son roman « Où j'ai laissé mon âme », Jérôme Ferrari retrace la déchéance morale d'un homme qui ne sait plus où et quand il a perdu son honneur et son humanité. La même année, Jérôme Ferrari a reçu le prix Goncourt pour son roman « Sermon sur la chute de Rome ». Il faisait d'un village corse la scène mondiale et d'un bar le lieu où pouvaient se relier les certitudes de foi de Saint-Augustin et l'évocation par Leibniz du meilleur des mondes possibles. Jérôme Ferrari a grandi à Paris. Il a étudié la philosophie et l'a enseigné pendant de nombreuses années dans des lycées internationaux à Alger et à Abu Dhabi. Depuis 2017, l'auteur, aujourd'hui âgé de 57 ans, vit à nouveau en Corse. Dans Balco Atlantico et à son image, plusieurs fois primé et entre-temps également adapté au cinéma, Ferrari a réglé ses comptes avec le nationalisme sanglant du mouvement de libération de la Corse. Son dernier ouvrage se déroule également en Corse, même si le titre « Nord Sentinelle » fait référence à une petite île de l'océan Indien. Les habitants de l'île de North Sentinel refusent tout contact avec le monde extérieur. En 2018, un jeune Américain voulait entrer sur l'île et annoncer l'évangile aux indigènes. Ils l'ont tué à coups de flèche et ont enterré son corps sur la plage. Les familles corses, établies de longue date, voyaient plutôt des avantages à héberger les voyageurs. Elles ont vendu des terres, transformé des bergeries en appartements de vacances, ouvert des boutiques de souvenirs et fait fortune. Le roman de Ferrari se déroule de nos jours. Il tourne autour des effets négatifs du tourisme de masse et de la question fondamentale de savoir s'il peut y avoir une relation honnête entre les habitants et les voyageurs. Au début de Nord Sentinelle, Jérôme Ferrari place un événement significatif.
On raconte encore que dans l'après-midi du 3 janvier 1855, malgré la vénérable prophétie annonçant la ruine de la ville sainte, peu de temps après qu'un infidèle l'aurait impunément souillé de sa présence, le sultan Ahmad ibn Abu Bakr consentit à ce que le capitaine Richard Francis Burton franchît les portes inviolées de sa cité de Harar. Il lui accorda une hospitalité soupçonneuse de 10 jours avant de le laisser repartir sain et sauf, privilège dont aucun Européen n'avait joui jusqu'alors. S'il avait pu savoir que Harar tomberait en 1875, alors que lui-même était mort de consomption 19 ans plus tôt dans l'amertume et le regret, Ahmad ibn Abu Bakr n'aurait sans doute pas commis l'erreur fatale d'épargner le capitaine Burton, et il aurait eu raison.
Donc voilà le début du roman « Nord Sentinelle ». J'avais parlé tout au début des indigènes de Nord Sentinelle, cette île dans le Pacifique. Les indigènes de l'île Nord Sentinelle et le capitaine Burton représentent deux manières de comportement ou d'attitude face à l'étranger, face à l'autre. On peut le tuer ou se glisser dans sa peau pour mieux l'étudier, l'observer de près. Est-ce que vous avez choisi le personnage historique de Richard Francis Burton pour montrer que les voyageurs sont toujours des trompeurs potentiels?
Des dangers potentiels, en tout cas. Et ce voyage de Burton à Harar a été entrepris précisément parce que lui savait que la prophétie qui annonçait la ruine de la ville, si un étranger rentrait dedans et s'en échappait sain et sauf, existait. Il avait une espèce de volonté d'être cette première personne et non pas d'apporter la ruine à la ville, mais de réaliser une sorte de défi, parce que je crois qu'il adorait ça. Curieusement, c'est une anecdote que j'ai prise assez tard. Moi, je savais que l'île de Nord Sentinelle serait une espèce de paradigme sur, comment dirais-je, la manière la plus radicale qu'on puisse imaginer de traiter les nouveaux arrivants, et c'était drôle. C'est souvent ce genre de hasard qui arrive quand on écrit que je suis tombé sur cette anecdote de Harar qui racontait la même chose, sauf que là, le meurtre n'est pas accompli et que Burton écrit la deuxième nuit qui passe dans la citadelle, que c'est bizarre pour lui de dormir dans cette ville dont il sait qu'il va... qui sait qu'il en est le fléau à venir et que sa présence annonce la ruine.
Il y a plusieurs fils narratifs dans Nord Sentinelle qui tournent autour des effets négatifs du tourisme de masse, lassitude, haine, envie de meurtre, et aussi de la question fondamentale de savoir s'il peut y avoir une relation honnête entre les autochtones et les indigènes et les voyageurs. Je résume l'épisode central. Il y a un autochtone corse et un voyageur du continent qui se sentent humiliés pour des raisons différentes. Alexandre est un garçon de la famille Romani et le fils d'une cousine du narrateur. Il gère un restaurant. Un client qui passe ses vacances sur l'île avec sa famille depuis beaucoup d'années et qui connaît Alexandre depuis son enfance, ils ont presque le même âge, il vient manger avec des amis. Et le jeune Romani sert un vin qui ne vaut pas l'argent. Les invités pensent qu'on se moque d'eux et prévoient de retourner manger au restaurant le lendemain, mais en apportant leur propre bouteille. Ils veulent faire comprendre au gérant, Alexandre, qu'ils ne se laisseront pas tromper. Le lendemain, Alexandre Romani poignarde le jeune Français en pleine rue devant de nombreux témoins. Est-ce l'honneur bafoué qui l'a poussé à l'acte ou une haine bien plus ancienne, profondément ancrée envers tous ceux qui ne sont pas du pays?
Je pense que le roman donne plusieurs pistes qui sont pas seulement complémentaires, mais parfois même contradictoires, comme il arrive souvent avec la motivation des comportements humains, de toute façon, qui éclairent d'une certaine manière l'acte d'Alexandre. Je pense pas, moi, en tout cas, après les interprétations sont toujours ouvertes quand un texte existe, que le fond de cette affaire soit une haine viscérale de l'étranger, mais plutôt une forme d'humiliation, pas même réelle, mais qui est causée par le fait que quelque chose se passe dont il pense qu'il ne devrait pas le supporter. Et que c'est l'image qu'il veut donner de lui-même qui est gravement atteinte et qui ne peut pas laisser passer ça et qui se doit d'être fidèle à cette image en réagissant pour une histoire complètement dérisoire de manière aussi violente. Je ne me suis pas inspiré de faits divers particuliers ou réels, mais il y a plein de petits faits divers comme ça qui existent et qui ont tous pour point commun de partir de causes absolument dérisoires et de déboucher sur des tragédies qui ruinent soit métaphoriquement, soit réellement les vies de tous ceux qui participent. Et moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé et beaucoup choqué cette disproportion entre les motifs et les effets. Et je pense que ce qui est en jeu ici, c'est un mode particulièrement déficient de rapport à l'autre. Et un mode particulièrement déficient de rapport à l'autre qui me paraît être propre, non pas tout rapport qu'on peut entretenir avec des étrangers, heureusement, mais à celui qu'on entretient précisément dans le cadre du tourisme de masse, où le rapport justement est manqué, n'existe pas. Et où chacun n'a affaire qu'à l'image fantasmée qui se fait de l'autre et pas à la personne humaine en chair et en os. Et bien sûr, c'est toujours la personne humaine en chair et en os qui finit par payer le prix de ce malentendu-là.
Et le rapport déficient, c'est des deux côtés, bien sûr.
Oui, bien sûr, des deux côtés. Les conditions de possibilité d'une rencontre réelle entre des gens qui sont pas du tout exclus par le fait de voyager. Ces conditions, elles sont pas du tout réunies dans le cadre du tourisme de masse. Elles peuvent pas l'être. Et bien sûr, ça dépend évidemment pas de la qualité humaine des uns ou des autres, de la bonne volonté des uns et des autres. Mais c'est un type de relation basée sur la vente et la consommation qui me paraît rendre absolument impossible toute relation humaine authentique. Absolument impossible.
Avec le narrateur sans nom, vous avez créé un personnage dont le parcours de vie ressemble un tout petit peu au vôtre. Comme le narrateur, vous avez enseigné à l'étranger et vous avez repris après de nombreuses années un poste de professeur de philosophie en Corse. Aux yeux du revenant, personne en Corse ne parvient à échapper à la présence envahissante des hordes vacanciers. Mais les Corses qui ont profité du tourisme sont aussi durement critiqués, notamment les Romani. Le narrateur porte un jugement très sévère sur cette famille qu'il décrit comme une dynastie de vauriens. Et je voudrais que vous lisiez un passage merveilleusement satirique qui vise la bêtise des Romani.
Les Romani traversaient tous l'existence avec la douce certitude d'appartenir, depuis des temps immémoriaux, à une race élue de seigneurs. Philippe croyait ainsi, avec la plus désarmante bonne foi, que les quelques mégalithes grossiers constituant le misérable patrimoine archéologique de la région avaient été érigés, quand l'or scintillait déjà aux portes sculptées des palais de Mycène, par ses lointains ancêtres, lesquels avaient certainement dû surgir dans toute leur gloire du sein même de la terre nourricière, au lieu de se contenter, comme ceux du commun des mortels, de descendre plus modestement, couverts de loques et de poux, d'un rafio ligure ou baléare, échoué sur une plage. Le fait désolant que leur premier-né mâle reçoive systématiquement des prénoms de rois, d'empereurs ou de héros antiques est sans doute un symptôme particulièrement transparent de leur mégalomanie, comme de leur absence totale de sens du ridicule. Les Romains y portaient haut, et qui plus est fièrement, l'étendard de l'inculture. Ils ignoraient évidemment tout de l'origine exacte des personnages, historiques ou légendaires, qui rendirent ces noms illustres, et il ne leur parut jamais étrange, comme l'atteste leur grotesque généalogie, qu'un Hector put engendrer un Achille, ou qu'Amilcar fut le grand-père de Scipion.
Le narrateur de Nord Sentinelle se moque et se distancie à la fois des Romani, mais l'un d'entre eux a pourtant été son meilleur ami et l'épouse de celui-ci est sa cousine. Le narrateur a beau s'élever au-dessus de cette famille inculte qui méprit la bourgeoisie intellectuelle, mais il n'arrive pas à s'en détacher. Et je crois que c'est une manœuvre très intelligente parce qu'il est à la fois dedans et dehors et explore en même temps la question d'une potentielle co-responsabilité dans l'escalade du conflit du jeune Romani.
Alors, le point le plus important pour moi, et c'était, ça faisait partie du projet, et ça a sans doute contribué beaucoup au plaisir que j'ai eu à le mener, c'est que le narrateur est absolument pas fiable, évidemment. Il est ni fiable, ni particulièrement aimable. Et sa lucidité cruelle sur ce qui l'entoure, évidemment, ne va pas jusqu'à s'englober lui-même. Il est particulièrement indulgent avec lui-même. Et on voit bien qu'il est quand même motivé plus par la rancœur et la jalousie que par l'amour de l'objectivité dans les descriptions qu'il fait de ses meilleurs amis, de son meilleur ami Philippe Romagne, à qui il a quand même pas grand-chose à reprocher, et dont il dit pique-pendre pendant tout le long du roman. Enfin, le lecteur devine assez facilement, je pense, c'est parce que ce qu'il lui pardonne absolument pas, c'est d'avoir épousé une cousine dont lui-même est follement amoureux et à laquelle il n'a jamais osé avouer son amour. Bon, cependant, je voulais pas non plus que le narrateur soit pas fiable, c'est une chose, que ce soit un parfait abruti, non. et donc, évidemment, il doit avoir de temps en temps des éclairs de lucidité. Et un de ces éclairs de lucidité, sans doute, dû effectivement à sa position d'extériorité et d'appartenance que lui confère non pas sa lucidité, mais plutôt sa rancœur, hein, d'être toujours un pas de côté, lui permet de saisir que la situation économique liée au tourisme de masse n'est pas une situation où des coupables sont en train de profiter d'innocentes victimes. Ce qui me paraît assez juste, hein. Dans la mesure où effectivement la question de la psychologie des personnalités est peu importante dans les situations qui sont avant tout structurelles et qui sont des résultats de macrostructures économiques dans lesquelles les relations humaines font figure de victimes collatérales, en quelque sorte. Et donc c'est des problèmes énormes où on chercherait en vain les victimes et les coupables, et qui, parce qu'ils sont structurels, présentent aussi la particularité assez fâcheuse, de mon avis, être absolument dépourvus de solutions possibles. Voilà, évidemment... La manne financière apportée par le tourisme de masse, si méprisable soit-elle, eh bien, elle reste une manne financière. Et jusqu'à présent, les gens qui n'ont pas d'autres sources, ou en général, heureusement d'ailleurs, ce n'est pas un jugement moral que je fais, hein, ont pas les ressources nécessaires en vertu et en en vertu stoïcienne pour refuser ça parce qu'ils en ont besoin. Et c'est ce type de péché originel que le narrateur souligne, alors que lui-même profite aussi de ce qu'apporte le tourisme de masse, même s'il accuse les autres de le faire sans se remettre jamais en cause lui-même.
Il se dit, le narrateur, doublement renégat. Pourquoi ?
Alors, normalement, c'est une réponse qu'on aura plus en détail dans la suite, parce que le Nord Sentinelle est censé être le premier volet d'un triptyque. Alors, pas une trilogie, on ne retrouvera pas les mêmes personnages du tout, mais ça, cette histoire de double apostasie, je pense que j'espère pouvoir la reprendre. Mais au niveau de Nord Sentinelle, la première lecture, c'est qu'il est doublement renégat ou apostat, d'abord parce qu'il quitte son île. Et après, parce qu'il y revient, évidemment, il la quitte pas pour y revenir, et il finit par y revenir, et il peut pas se défendre de reconnaître que pendant tout le moment qu'il a passé loin de cet endroit qu'il semble abhorré et qui est peuplé de gens qu'il abhorre aussi, il n'a pas pu ne pas ressentir une atroce nostalgie de ce qu'il avait perdu, et donc il s'est renié une seconde fois en retournant à ce qu'il avait voulu fuir, et qu'il a même pas été capable de fuir correctement.
Les rencontres, les échanges réels avec les autres, en quelque sorte, paraissent impossibles. On ne peut que rester entre soi et s'installer dans la mélancolie.
Alors non, je peux avouer que je ne suis pas d'un optimisme débridé, certes, mais je ne suis quand même pas aussi radicalement pessimiste que ça. Quand même, Nord Sentinelle se déroule dans une situation où effectivement les rapports authentiques avec l'autre sont compliqués, mais je ne pense pas du tout que ce soit impossible, heureusement, parce que sinon, la vie serait non seulement compliquée, mais vraiment assez dénuée de valeur. Mais il y a des situations dans lesquelles elles sont compliquées, et sans doute encore plus pour lui, qui quand même ne passe son temps à renoncer à explorer les possibilités des relations qu'il aimerait avoir, qui est suffisamment lâche pour critiquer des choses qui changent pas. Et le motif du fait qu'on est incapable de se changer soi-même, je pense que c'est potentiellement, j'en parlerai après, parce que c'est pas un hasard si le roman commence avec Burton. Burton parlait un nombre incalculable de langues. Quand il était dans un pays, il s'habillait comme les locaux, il mettait un point d'honneur à pas pouvoir être repéré comme britannique. Mais j'ai l'impression que cette tentative qu'il fait tout le temps de devenir quelqu'un d'autre que lui-même, en un sens, même quand elle a l'air d'être réussie, parce qu'il fait le pèlerinage à la Mecque sans être démasqué, etc., elle réussit jamais tout à fait, parce qu'en faisant ça, ce qu'il peut pas perdre comme sentiment, c'est celui d'essayer justement d'être quelqu'un d'autre que soi-même, parce qu'évidemment on n'essaye pas quand on est vraiment quelqu'un d'autre. Cette dialectique entre le soi et l'autre, la fascination que peut provoquer l'altérité, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Revenons au meurtre, donc la tentative, parce que c'est pas clair que Alexandre a vraiment tué son copain d'enfance. La tentative de meurtre, elle est tragique. L'impossibilité d'une vraie rencontre est aussi tragique, dirais-je. Vous décrivez des scènes extrêmement drôles et cyniques, comme celle des ateliers de team building dans une bergerie à 1200 mètres de hauteur. Les participants souffrent du froid et ils sont récompensés par un concert de jeunes Corses qui se veut authentiquement local, mais ils ne chantent que des chansons de résistance italienne et latino-américaine. Donc tout est faux, mais l'enfer paraît aussi drôle. Avez-vous conçu le roman comme une tragicomédie?
Ah oui. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, puis je l'ai pas fait, c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué énormément, Mais là, le thème l'imposait en quelque sorte, hein, parce qu'il y a des choses qui sont tragiques, mais comme elles se déroulent en fait de manière ridicule, il fallait que je voulais qu'en fait le côté grotesque pas contredise mais renforce l'aspect tragique et que ce soit de l'aspect tragique que naisse une drôlerie potentielle. Et c'est pas forcément positif. Je pense que il y a une phrase de Schopenhauer dans Le Monde comme volonté, comme représentation qui m'a toujours beaucoup à la fois fait rire et frappé par sa pertinence. Schopenhauer me fait beaucoup rire parce qu'il est toujours très très hyperbolique et énervé, et je trouve ça drôle. Mais il dit à peu près en substance que dans la tragédie épouvantable qu'est la vie, ne nous est même pas laissé la dignité du héros tragique et qu'on est condamné en quelque sorte à vivre une tragédie épouvantable en tenant un rôle de bouffon pitoyable. Et voilà, c'est... Alors lui, il le dit avec des accents de désespoir dans la voix, mais que je comprends, hein, c'est pas un constat très drôle. En même temps, ça l'est un peu. Et c'était quelque chose que je voulais... explorer, d'autant que peut-être que vous avez remarqué qu'on vit dans une époque où c'est de plus en plus difficile de faire dans la parodie ou la caricature parce qu'en fait la réalité nous offre bien plus que ce qu'on peut imaginer, si bien que la scène de team building, évidemment je l'ai imaginée dans le sens de la manière dont ça se déroulait, mais en fait c'est des choses qui existent absolument, qui sont réelles. Et en essayant d'imaginer la chose la plus ridicule, la plus grotesque, la plus pitoyable, je sais que j'aurais échoué à imaginer quelque chose de mieux que ce que le réel avait à nous offrir, et donc je m'en suis à peu près contenté et servi. Hein. Oui.
À la fin, le narrateur cherche un bar, mais il se trouve comme dans une ville fantôme. C'est le mois de novembre, les vacanciers sont partis. Et ils se sont abandonnés dans un champ de ruines. Ils sentent que les Illois sont pour tout temps pris au piège de l'épouvantable dialectique. Ils sont liés et opposés à la fois dans un face-à-face de corruption mutuelle. Il ne peut qu'admirer la colère du jeune Alexandre. « Sois donc ma rage, mais ta rage à toi, mon garçon, n'est pas impuissante. » Donc, tout en soulignant, il dit ça, combien il est vain de faire couler du sang. On a l'impression que vous semblez donner quand même raison aux jeunes assassins.
Ce que fait le narrateur qui commence par traiter son petit cousin Alexandre qui a poignardé le jeune Continental, il le traite très mal, il le méprise, il le traite d'imbécile et en même temps... D'une certaine manière, à la fin, il l'envie d'avoir été capable de réagir avec violence, ce dont lui est précisément incapable. Il y a une forme d'ambivalence radicale qu'a le narrateur dans ses relations avec les Romagnes, y compris avec son petit cousin. Cette ambivalence, elle est sans doute motivée au fond par le fait qu'il comprend et qu'il est attaché à un trait de caractère qui vilipende le plus chez les Romagnes, qui est assez méditerranéen et bêtement viriliste et réel, et qui est la capacité de réagir violemment aux offenses qui sont faites, dont le narrateur est dépourvu. Moi, ça me paraissait intéressant de voir que ce qu'il condamne avec la dernière vigueur d'un point de vue intellectuel, en même temps, il y est affectivement attaché, et qu'il le comprend, et qu'il l'envie, parce qu'il n'en est pas capable non plus. Bien sûr, il ne s'agissait pas du tout pour moi de faire une espèce de twist à la fin pour qu'on ait un coup de théâtre, mais de donner la mesure de cette ambivalence et aussi la mesure de la colère froide qui est celle du narrateur contre l'état du monde, à laquelle il ne trouve pas d'expression adéquate et où finalement il arrive presque à penser qu'un meurtre gratuit, stupide, violent et impardonnable est finalement une réponse qui vaut mieux que rien du tout.
C'est intéressant parce que le père d'Alexandre, Philippe, quand j'ai pensé à l'épisode que vous entreglissez sur Pierre-Marie Romani, qui dans les années 30 avait tué les frères Dominati, et donc quand il retourne à la maison, son père lui demande ce qu'il veut faire, est-ce qu'il va se rendre, il dit non, et l'assassin ressent pour la première fois que son père est fier de lui. Donc une vie en cachette va commencer. Et Philippe, le père d'Alexandre, il n'accepte pas. Donc c'est tout l'envers, c'est le père lui-même qui va emmener son fils aux portes de la gendarmerie. Donc il y a du temps qui est passé.
Il y a du temps qui est passé et le jeune Alexandre vit encore dans une image fantasmée de la violence des bandits d'honneur, etc. Alors que, bon, évidemment, l'histoire qui est racontée dans le roman, qui est parfaitement inventée, mais pas complètement invraisemblable historiquement, n'a rigoureusement rien à voir avec l'honneur, hein. C'est la réaction complètement désespérée de quelqu'un qui est traqué et qui. Et dont la faiblesse et la terreur se transforment en rage meurtrière. Ça n'a rien de romantique, mais c'est vécu comme ça par Alexandre. Et là encore, hein, le père d'Alexandre, Philippe, dont le narrateur dit tant de mal, ben lui, il n'y croit pas vraiment à ce genre de choses. Et il n'est pas ravi que son fils ait montré qu'il était capable d'attenter à la vie de quelqu'un physiquement. Il n'en tire pas de fierté. On m'a souvent dit que Philippe était un sale type, comme si ce que disait le narrateur était d'une fiabilité totale, mais moi il me semble pas que ce soit un si sale type que ça en fait. Et quand on lit le roman, on voit pas franchement ce que les gens qui vivent à côté de lui ont à lui reprocher, si ce n'est qu'il est riche, exubérant, mais effectivement il rentre pas dans ces illusions-là.
Les cinq chapitres du roman, si l'on parle maintenant de la forme du roman, se composent de récits et de trois courtes théories de l'enfer. Les récits ont des titres descriptifs, ils sont boîtes sans rupture, et par sa forme, le roman, il est clairement structuré, mais la langue, elle est très très fluide. Vous écrivez de longues cascades de phrases, on a envie de lire à haute voix. Voulez-vous que ce soit un grand chant, en quelque sorte?
Alors, j'avais des partis pris formels au départ qui me paraissaient. Alors, moi, un parti pris formel, il n'est jamais uniquement formel, sinon il a pas de sens. C'est du défi, du pari, enfin, c'est pas très intéressant littérairement. Mais je voulais qu'il y ait une forme de continuité, donc de fluidité, donc d'intégration. Et qu'en même temps, à l'intérieur, on puisse discerner des petits contes, des petites histoires qui auraient valu comme unité narrative propre, mais qui, agencées ensemble, donnaient, sans l'ombre d'un doute pour le lecteur, un roman, et pas une compilation ou une playlist, en fait. Et ben, c'était compliqué à faire. C'était très compliqué à faire. C'est pour ça qu'il y a un double chapitrage, en quelque sorte. Un roman, il est divisé effectivement en cinq chapitres. Et puis, à la table des matières, il y a les petites histoires dont ça compose qui ont réellement pas de début et de fin dans le chapitre. C'est pour ça. S'il y avait eu un début et une fin, j'aurais mis les pages. Mais j'ai essayé, moi aussi. Ça marche pas comme ça. Pour que ça fasse en quelque sorte à la fois un roman et à la fois possiblement une forme de recueil de contes. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je me demandais si j'allais réussir à faire ça. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse encore aujourd'hui, bien que le roman soit sorti, mais voilà, c'est ce que ça a donné. Et je savais que si cette forme de discontinuité apparaissait formellement et structurellement, ça allait donner des histoires intéressantes, mais que je ne ferais pas un roman avec ça. Que là, j'allais retomber dans une espèce de patchwork, on peut, hein. J'ai rien contre le patchwork. Ce qu'il y a de bien avec la littérature, enfin, puis avec la plupart des formes d'art, c'est que toutes les formes de composition, même les plus étrangères, peuvent donner quelque chose, mais c'est pas ce que je voulais. Là, je voulais vraiment une unité qui pouvait se dissoudre un peu en éléments, mais pas en éléments trop discrets et trop quantifiés, pas au point qu'on puisse les isoler complètement.
Il y a aussi parfois des images qui sont reprises mot par mot dans le monologue intérieur du narrateur, et puis la même image, elle va s'ouvrir sur d'autres pensées. Je pense par exemple, là je vais prendre le livre, c'était le dernier chapitre. Il commence, j'ai vu d'autres mers d'une étrange couleur, j'ai vu les sables du désert danser au sommet des dunes, ou coucher de soleil comme sous le souffle léger des créatures invisibles à l'heure où l'on croirait deviner la présence de Dieu dans la beauté du monde. Et puis c'est quelques pages plus tard, je crois que c'est ici où j'ai marqué ça. J'ai vu d'autres mers d'une étrange couleur et des sables du désert danser sur les dunes au soleil couchant, et je n'ai cependant jamais réussi à devenir étranger à moi-même, pas plus que je n'y réussis, je le crains, le capitaine Burton, qui fait pourtant tant d'hommes à la fois, et c'est sans doute pour cela que 5 ans après mon retour, je n'ai toujours pas redemandé à partir. Et ça continue. Il y a des phrases qui rythment les récits.
Il y a effectivement des motifs. Bon, on raconte encore, et effectivement, le motif le plus évident, parce que c'est la très belle formule par laquelle Sherazade recommence ses contes au milieu de la nuit, dans les mille et une nuits. Là, on est dans quelque chose qui relève de la logique interne d'un texte, et qui fait qu'un texte littéraire ne peut pas être autre chose qu'un texte littéraire, parce qu'il n'obéit pas à une logique événementielle. Il n'obéit pas à une logique qui relève du déroulement normal du temps. Il peut obéir à des tas de logiques différentes, mais c'est celle du motif qui revient et qui prend une nouvelle signification ou qui ouvre sur des choses qui sont différentes, même un tout petit peu, de celles qui l'ont vu apparaître la dernière fois et qui font qu'il sème des échos qui ne sont pas des répétitions dans le texte. Pour moi, ça renvoie au travail littéraire de la langue, mais surtout au pouvoir de la langue, à ce qu'elle peut faire et à comment on peut essayer de laisser se manifester ce pouvoir, qui est vraiment très très particulier et qui explique l'ordre dans lequel se déroule un texte, indépendamment de l'ordre des événements qu'il est en train de décrire, qui a une structure et une logique bien plus profonde que celui des événements. C'est des choses qui m'ont toujours... Moi, en tant que lecteur, beaucoup frappé dans ce que pouvait faire la fiction littéraire.
Et c'était la 38e édition de Litteramour. Pour le prochain épisode, j'ai rendez-vous avec Magdalena Zeiger, historienne et auteure du livre « Au bord de l'eau, la maison ». La maison au bord du Wannsee est l'ancienne villa d'été du fameux peintre Max Liebermann. Nous parlerons de son histoire très mouvementée et du défi littéraire. Je suis Sigurd Brinkmann, vous souhaite lecture inspirante. À bientôt.